Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question de la fondatrice des Sœurs missionnaires du Saint-Esprit, Eugénie Capps, une Lorraine, une Française, plutôt de culture allemande, car la Lorraine a appartenu à l'Allemagne, à la France, elle s'est passée d'un pays à l'autre. Elle est morte en 1931, et je vous avais parlé du fondateur des Pères du Saint-Esprit le 2 février dernier, là. C'était François Liebermann, ce juif orthodoxe, fils d'un rabbin qui est devenu un passionné de Jésus-Christ et qui est mort, lui, presque un siècle plus tôt, en 1831. François Liebermann est vraiment l'un des personnages les plus extraordinaires du 19e siècle. Hein, cet homme né vraiment dans le judaïsme le plus orthodoxe, rêvant de devenir rabbin, et finalement considéré comme le fondateur des Pères du Saint-Esprit, ces missionnaires extraordinaires qui ont travaillé en Afrique en particulier. Et avec un enthousiasme et une passion, quand on lit l'histoire de cette congrégation, on reste bouche bée. Il faut d'ailleurs, au besoin, lire l'ouvrage « Le feu sur la terre », justement, « Un chemin de sainteté » avec François Liebermann. C'est paru « Le Sarment Fayard », c'est un livre d'Alphonse Gilbert. Excellente biographie que je vous recommande. Je vous avais aussi recommandé sur François Liebermann son commentaire de Saint-Jean. Gros bouquin paru il y a une dizaine d'années chez Nouvelle Cité, les éditions Nouvelle Cité. On trouve ça en librairie. Hein. C'est un livre de 750 pages, commentaire de Saint-Jean, un commentaire surprenant, qui n'a rien à voir avec un commentaire très exégétique comme on en rêve aujourd'hui. Non, non, c'est un commentaire mystique, commentaire spirituel. Pour ce qui est d'Eugénie Capps, ce qui a hérité un peu de l'esprit de François Liebermann, elle est née le 3 juin 1892... à Loudrefingue, en Lorraine, comme je vous ai dit tout à l'heure, en France, près de la frontière de l'Allemagne, quoi. Son père, M. Capps, C-A-P-S, est alors un simple garde-barrière de passage à niveau, des chemins de fer, quoi. Un homme simple. Sa première enfance se passe très simplement au sein de sa famille, avec ses parents, quoi. Elle a deux frères qui ont des noms, de beaux noms, un peu surprenants, que l'on n'entend pas souvent, Camille et Abel. Alors, elle est orientée très jeune vers Dieu. Elle est attirée aussi très jeune vers tout ce qui touche aux missions. C'est l'époque d'ailleurs où on a beaucoup de revues missionnaires, comme on en recevait chez moi. Et je lisais toujours Le Précurseur, la revue d'ailleurs des missionnaires du Saint-Esprit aussi, celle des Pères Blancs, on lisait ça, ça nous passionnait, ça nous donnait le goût d'être missionnaire dès l'âge de 6-7 ans. Et les histoires justement de missionnaires exercent sur Eugénie Capps une profonde impression. Au fil des années, on peut dire que sa vocation missionnaire s'affermit. Et le 25 avril 1915, l'appel de Dieu se fait plus précis. Elle a presque 23 ans. Elle écrit d'ailleurs dans son journal, le 25 avril 1915, Jésus me fait comprendre après la Sainte Communion qu'il demande une nouvelle œuvre de sœur missionnaire et que l'abbé Esch, qui est vicaire à Bouzonville, et moi, nous serions les premiers à nous en occuper. Alors Eugénie Capps prend peur évidemment quand elle ressent cet appel. Elle ne voit pas comment elle, fille d'un garde-barrière, éduquée simplement, qui n'a pas une personnalité nécessairement extraordinaire, qui est humble, pourrait entreprendre une œuvre pareille. Elle n'imagine pas qu'elle puisse accepter une entreprise comme celle-là. En dedans d'elle-même, Elle sent, on peut dire, un vrai bouleversement. Et elle ne retrouve la paix que lorsqu'elle accepte tout ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut. Elle raconte, les mois se passent. Et toujours, l'idée de l'œuvre devient plus nette. Oui, pour moi, c'est clair. Et voici ce que Jésus veut. Jésus m'attend là-bas, loin de ma patrie, loin de ceux que j'aime, pour lui seul. C'est donc clair, ce seront les missions. Elle écrit ça en 1915. Et c'est là que commencent les difficultés. Et d'abord, de son directeur qui a un projet d'œuvre qui adapte à toutes les nécessités de la vie chrétienne, qui s'adapte à toutes les nécessités de la vie chrétienne, et tandis que Eugénie a vu et compris une nouvelle œuvre de sœur, uniquement missionnaire. Un point, c'est tout. Uniquement missionnaire. Elle ne veut rien faire d'autre que des missions. Mais c'est la guerre 14-18, la Grande Guerre. Et c'est en pleine guerre, donc. Et rien ne peut s'entreprendre dans les médias, il faut attendre. Et après la guerre, en 1918, Eugénie Cap se dit « Maintenant, il faut agir ». Il cherche à définir et à concrétiser l'esprit duquel la nouvelle société doit s'inspirer, ou devrait s'inspirer. Il faut un esprit d'union très intime à Dieu, un esprit de contemplation lié à une activité missionnaire, à l'action d'apostolat en général. Après beaucoup d'échanges, il conclut, tous deux, qu'il faut aux missionnaires un esprit d'union. Union à Dieu basée sur l'esprit sacrifice et de renoncement, pour pouvoir faire vraiment une œuvre de libération parmi les païens, une œuvre de salut, quoi. Et c'est évidemment un point de départ, comme elle l'écrit dans son journal en 1919, 4 ans plus tard, la vie intérieure et intime comme base. Cela, il le faut absolument, absolument, car sans cela, il n'y a rien de bon. Bien des fois, elle écrit, « Je ne puis concevoir une vie active qui ne soit basée sur une vie très intime avec Dieu. Je ne puis concevoir une vie active qui ne soit basée sur une vie très intime avec Dieu. » Et comme elle a raison. Comme elle a raison. D'autre part, c'est pas la contemplation seule qui la tue. Elle ne la sépare jamais d'une grande activité missionnaire. Elle veut les deux. Elle veut les deux absolument. Et au cours de l'année 1919, donc elle a 27 ans, il y a des expositions missionnaires qui se réorganisent à la suite de la guerre, en Lorraine, où elle vit toujours, près de l'Allemagne. À une de ces expositions, Eugénie Caps achète au stand de la librairie la vie du vénérable Liebermann, dont je vous ai parlé tout à l'heure, François Liebermann. Est-ce celle de Monseigneur Jean Guay? Je l'ignore. Qui est une vie fort intéressante. Il y en a eu tellement de vies du vénérable Liebermann. Elle lit et relit et déclare, voilà notre esprit tout trouvé. Elle s'identifie dans son cœur à l'esprit de ce juif extraordinaire qui est François Liebermann, juif selon l'Évangile, qui est mort si jeune en 1851-52, lui qui était né en 1802, n'a vécu qu'une cinquantaine d'années. Le livre, d'ailleurs, de Monseigneur Jean Guay sur Liebermann, paru il y a bien des années chez Beauchesne, a une préface d'André Frossard, lui-même d'origine juive, en partie. Et c'est à partir de ce moment-là, quand elle dit « Voilà notre esprit tout trouvé », à partir de ce moment-là qu'Eugénie Caps entre en lien avec justement les fils de Liberman, les spiritains de Neugrange ou Neufgrange, si vous préférez. En réponse, il conseille à Eugénie Capps et à ses compagnes de rentrer chez les sœurs tout simplement de Saint-Joseph de Cluny, puis de laisser tomber cette idée de fondation nouvelle de sœurs spiritaines. Mais Eugénie Capps ne se décourage pas. Elle est tenace. Et elle envoie une autre lettre au père Klaus, supérieur de la communauté de Neufgrange, des spiritains, quoi. Le père Klaus répond qu'il faut s'adresser à l'évêque de Metz. Et il laisse entrevoir à Eugénie Capps les difficultés qui l'attendent. Fonder, c'est, je dirais pour ma part, se crucifier. Plus je lis les vies des fondatrices, plus j'ai l'impression qu'il faut passer par 1000 problèmes, difficiles souvent avec des prêtres ou des évêques. Et elle, ça va être un évêque. Eugénie Capps note dans son journal... Même si Monseigneur l'évêque de Metz est pour le projet, les difficultés ne sont pas encore écartées. D'autres encore bien plus grandes surgiront, comme elle a raison. Mais si l'œuvre est voulue de Dieu, ajoute-t-elle, la Providence aidera à les surmonter toutes. Et là, elle a très, très, très profondément raison. Que l'œuvre soit voulue de Dieu, Eugénie Capps n'en doute jamais. Et cette lettre est pour elle comme une lueur de clarté dans l'obscurité. Le 16 septembre 1920, le supérieur général des spiritains, Monseigneur Leroy, vient à Neufgrange chez les spiritains, justement, et le soir, il fait part au père de l'embarras où il se trouve pour trouver des religieuses pour les territoires qui lui sont récemment confiés pour la congrégation des spiritains, quoi. Et puis le père Klaus écoute en silence. Lorsqu'à un moment donné, un autre père, le père Karst, vous voyez qu'ils ont des noms un peu allemands, hein, interrompt en disant, « Justement, Monseigneur, Monseigneur le Roi, le bon Dieu est en train de nous en faire des sœurs. » Et il lui raconte l'histoire. Et après la prière du soir, il va demander des lettres, les lettres, et va tout droit les porter à Monseigneur. L'évêque, sans attendre, parcourt les lettres et se sent pris d'une grande émotion. Il dit « C'est providentiel !» Et il tombe à genoux, bénissant Dieu, et qui visiblement, on peut dire, vient au secours de son embarras. Alors il reprend les lettres, puis il recommence la lecture, il est saisi à ce moment-là d'une telle évidence de l'origine divine de cette offre d'Eugénie Capps et de ses amis, qu'il s'est attaché à cette œuvre avec une affection paternelle qui ne s'est jamais démentie, au point qu'il va passer pour le fondateur des missionnaires spiritaines. Nous venons d'apprendre que le supérieur général des spiritains est enchanté de l'idée d'accueillir Eugénie Capps et ses amis comme religieuses dans cette grande communauté spiritaine, comme on dit, des missionnaires du Saint-Esprit. C'est en 1920. Mais 5 ans plus tôt, Eugénie Capps, femme de courage à toute épreuve, écrivait dans son journal le 10 mai, donc 1915, « Cette œuvre a commencé, plaît à Dieu. » Oui, il s'agit d'une affaire trop conséquente pour attendre longtemps. Et de mon côté, je vous assisterai autant que je pourrai, et même si nous devions être poussés de partout, il ne faudrait pas laisser tomber le courage. Les épreuves ont été nombreuses dans la vie d'Eugénie Capps, oui, très nombreuses, particulièrement depuis qu'elle a eu l'appel de Dieu en vue de la fondation. Aussi, elle n'en est pas surprise, puisque, on le sait par les récits que je vous ai faits depuis 3 ans, Le Seigneur a mis sur sa route pour la guider, ceux que le Seigneur a mis sur sa route pour le guider l'ont prévenu des épreuves qu'elle aura. C'est comme inévitable, ça surgit, c'est dans l'humanité. Et les pères spiritains de Neufgrange lui écrivent le 1er décembre 1919, il y aura surtout de grandes tribulations pour les fondatrices. Il faudra une patience héroïque et un esprit de sacrifice digne des premiers chrétiens pour surmonter tous les obstacles. Toutes les œuvres naissantes, écoutez bien ça, c'est dramatique au fond, toutes les œuvres naissantes et tous les fondateurs et fondatrices ont dû passer par le creuset de la souffrance. Les œuvres qui ne sont pas de Dieu échouent à cette épreuve. Alors, un an et demi plus tard, elle écrit, le 18 mai 1921, « On cherche à enlacer dans cette œuvre des sœurs missionnaires du Saint-Esprit encore d'autres bonnes œuvres. Ces personnes ne savent donc pas que nous ne sommes uniquement que pour les missions. » Et plus loin, elle ajoute, « Certes, les pères ne connaissent pas tout le mal que j'ai de tenir bon. Ils ne savent pas combien ce prêtre avec lequel je me comprenais si bien ne veut plus l'œuvre telle qu'elle est maintenant. Mon Dieu, mettez un terme à ces oppositions continuelles de la part de ce prêtre. Nous savons et nous sentons que nous sommes bien à notre affaire et que toutes ces autres offres ne sont pas ce que nous voulons et ce que le bon Dieu veut de nous. Alors courage, oui, courage et patience. » Et Monseigneur le Roi, le supérieur des Spiritains, lui écrit un peu plus tard, le 22 février 1922, « Courage et confiance, chère sœur, ne vous étonnez de rien, ne vous découragez de rien. Vous aurez sans doute plus d'une difficulté intérieure et extérieure. » Et il ajoute, cette comparaison étrange, « C'est le fumier qui sert à engraisser l'arbre des fondations telles que la nôtre. » Mais finalement, tout s'arrange dans la merveilleuse action de l'Esprit-Saint. Alors Eugénie Capps, de son côté, écrit à une postulante. Nous sommes religieuses missionnaires, uniquement missionnaires. Elles ont fait leurs vœux. Et la postulante se prépare à faire les siens. Nous sommes religieuses missionnaires, uniquement missionnaires. Ce qui, avant tout, est nécessaire, c'est une solide vertu. C'est la générosité. C'est le véritable amour au service du bon Dieu. Je répète, ce qui est nécessaire, c'est une solide vertu. C'est la générosité et le véritable amour au service du bon Dieu. Et elle ajoute une volonté ferme à toute épreuve. Une volonté ferme. Dieu demande qu'on veille aussi. Il ne fait pas tout. Il veut qu'on collabore. Et notre volonté s'exerce. Il nous l'a donné, c'est pas pour rien. Elle ajoute, « La vie religieuse est une vie de sacrifice. Mais combien belle, lorsque tout est fait par amour pour Dieu. Lorsque tout est fait par amour pour Dieu. C'est là qu'est le salut, la rédemption, la libération, lorsque tout est fait par amour pour Dieu. » Donc, dès maintenant, ajoute-t-elle finalement, pratiquez le renoncement, l'abnégation et l'union à Dieu. Confiez-vous, priez Marie, notre bonne mère du ciel. Ayez confiance en Saint Joseph. Courage toujours et grande confiance. On peut aussi lire ceci dans le journal de l'âme d'Eugénie Capps. Comme fidèle gardienne de mon âme, c'est vous, chère bonne mère, mère de mon Jésus, que je choisis. Venez à mon secours en tous mes besoins et dangers de cette vie. Oh, donnez-moi votre main, afin que je puisse y mettre la mienne, vous suivre de plus près, pour arriver vite à Jésus et toujours être auprès de vous, ma bonne mère, et auprès de Jésus. Je m'offre à vous tout entière, mon cœur, mon âme, mon corps, mes mains, mes pieds, mes yeux, ma langue et mes oreilles, ma raison, ma mémoire, mon intelligence. En un mot, ma personne tout entière. J'appartiens à vous comme j'appartiens à Jésus. Ça date de 1916. Et quelques semaines, bien plus tard, avant sa mort, 1931, elle dit « Merci, merci, mon Jésus, de tout, tout. Calmez mon cœur angoissé. Ne jamais réfléchir à mes peines. M'oublier. M'oublier. » D'ailleurs, en février 1931, l'année de sa mort, pensant à l'Afrique, elle écrit « Me voici, Jésus, me voici. Qu'importe l'avenir, je suis à vous. Faites-moi la grâce de vous rester fidèle et d'avancer de plus en plus. M'abandonner, oui, m'abandonner dans une entière confiance pour vous aimer parfaitement. Et pour que tous les Noirs, tant aimés, les Noirs, les Africains, les autres, les Noirs, pour que tous les Noirs tant aimés vous connaissent, vous aiment et vous servent. » Elle est, comme le vénérable Liberman, hantée par un amour bouleversant, profondément chrétien et évangélique, à l'égard des peuples d'Afrique. Et de cette action merveilleuse de l'Esprit-Saint, Eugénie en témoigne par l'hymne de louange que voici, adressé à son directeur. Vous m'ordonnez de mettre par écrit l'histoire de ma vocation. Vous désirez connaître davantage la marche merveilleuse de la divine providence dans la fondation des sœurs missionnaires du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. Je vous obéirai, mais ce n'est qu'avec une répugnance extrême. Ce que vous constaterez, ce sont les miséricordes du Seigneur à l'égard d'une bien pauvre créature. Dieu m'a choisi sans aucun mérite de ma part. Ma volonté était ferme et nette. L'idée des missions et d'une nouvelle fondation se dressait toujours devant moi comme la volonté de Dieu. Pour moi, il ne s'agissait plus de tâtonner, d'hésiter, mais d'agir. C'est Dieu qui a tout voulu et qui a tout fait. Que son nom soit béni dans toute l'éternité. C'est le père Liberman, fondateur des Spiritains, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce juif converti, qui disait « Dieu ne veut pas que l'on puisse attribuer les œuvres à la puissance des hommes. Il veut plutôt qu'on y reconnaisse la sienne, sa puissance, qui est le fruit de son amour. » Avec un désir intense de sainteté pour l'Institut qu'Eugénie Capps fonde, elle écrit en 1922 « Que je désire, oh oui, que je désire que cette chère congrégation naissante soit un nid de grandes saintes. Il faut à cette œuvre un fondement solide, une piété profonde, une vraie sainteté. » On ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'ambition, une grande ambition. Et à Noël 1925, Eugénie Capps écrit, donc 6 ans avant sa mort, même pas, c'est à Noël. Alors elle dit, je demande au petit Jésus de notre crèche de nous combler de ses joies pures, saintes. Je ne désire plus rien. Sauf une grande sainteté pour notre institut. Nous ne donnerons Jésus, oui, nous ne donnerons Jésus que dans la mesure que nous le posséderons au fond de nous-mêmes. Sauver des âmes en les gagnant à Jésus. Oui, que toutes nous soyons saintes. Ce n'est pas, donc, la contemplation seule qui attire Eugénie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle ne la sépare jamais d'une grande activité missionnaire. Elle veut les deux. Et les encouragements de Monseigneur le Roi fortifient son élan. son courage pour cette nouvelle fondation qu'elle veut uniquement missionnaire. Elle le dit bien. Nous venons de recevoir la grande visite de Monseigneur le Roi, notre très révérend Père. Quelle fête pour nous toutes! Monseigneur nous dit la joie qu'il éprouve en cette première visite et nous encourage à rester fidèles au but proposé et à croire que l'œuvre est venue de Dieu. Le Saint-Esprit nous protège, visiblement. Ses paroles, pleines de zèle pour la gloire de Dieu et le salut des pauvres âmes de l'Afrique, nous encouragent et nous donnent un nouvel élan de force et de courage pour le but de cette nouvelle mission. Alors cette femme au cœur missionnaire, pleine de foi et d'amour, c'est évident qu'elle est l'instrument dont Dieu se sert pour donner naissance à la communauté des sœurs missionnaires du Saint-Esprit. Et lorsque sa mission est accomplie, Eugénie Capps accepte de vivre dans l'ombre, oui, dans l'ombre de Monseigneur le Roi, disponible au bon vouloir de Dieu. Car c'est Monseigneur le Roi qui fera figure de fondateur. Ça prend beaucoup d'abnégation. C'est donc en Lorraine, dans l'est de la France, comme je vous ai dit, que Eugénie Capps et deux de ses compagnes, Lucie et Élise, se sont réunies pour la première fois en communauté. Elles étaient arrivées à Farstwiller le 5 janvier 1921. À leur arrivée, le père Karst, dont il a été question tout à l'heure, a expliqué à la foule que les jeunes filles étaient venues là pour se préparer à devenir des missionnaires, leurs sœurs. Et que désormais, elle partagerait le labeur des spiritains dans les pays de mission. Puis il conclut, s'adressant aux jeunes, « Désormais, d'immenses peuples de l'Afrique comptent sur vous, oui sur vous les jeunes, sur votre fidélité. Aucune difficulté ne pourra plus vous faire reculer. » Et les trois jeunes avaient fixé leur date d'arrivée le 5 janvier afin de commencer l'œuvre avec la messe du 6 janvier, fête de l'Épiphanie, fête de la manifestation de la divinité de Jésus. Fête aussi des missions. Alors Eugénie écrit dans son journal le 15 janvier, Mon Jésus, daigne me bénir, ainsi que celles qui partagent avec moi cette vie de prière et de travail. C'est la préparation à cette belle œuvre des sœurs missionnaires. Que l'œuvre se fasse comme Dieu l'a vu. Elle est commencée. Conduisez donc tout à bonne fin, Seigneur. Alors, Monseigneur le Roi, le supérieur général des spiritains, comme je vous ai dit, pendant ce temps-là, se trouve à Rome. Il a remis au pape Benoît XV la première supplique, où il expose le besoin urgent d'avoir des religieuses à eux, dans leur mission, à la rencontre, évidemment providentielle, avec le groupe de jeunes filles de Bouzonville, qui s'offrent à devenir leur petite sœur et qui sollicitent pour elles du Saint-Père encouragement et bénédiction. Et le 27 janvier, donc, une lettre arrive de Rome de Monseigneur le Roi. Mes chères sœurs, c'est la première fois que je vous écris, que je vous appelle de votre nom, de ce nom qui fait de vous une petite famille consacrée au service du bon Dieu pour le salut des âmes abandonnées de l'Afrique. Et je suis heureux de le faire de Rome et de vous envoyer dans votre petite maison de Lorraine qui vous sert de berceau, les plus affectueuses bénédictions du Saint-Père. Je lui ai parlé de vous, il approuve votre projet et je pense même qu'il vous donnera prochainement une preuve authentique de l'intérêt qu'il vous porte. Nous pouvons donc penser les uns et les autres que nous sommes dans une voie voulue et ouverte par la Providence. Alors en effet, au cours du mois donc de février, arrive le premier acte officiel de Rome, les encouragements de Benoît XV, le pape Benoît XV. Et bien vite, la maison s'avère trop petite, parce qu'il y a trop de postulantes, pas comme aujourd'hui, hein, trop de postulantes qui arrivent de partout. Alors les difficultés prévues ne tardent pas. Toutes ces jeunes filles rêvent de se donner et d'aller aider les Africains, les Noirs d'Afrique. Les Lorraines ne parlent que l'allemand à cette époque, tandis que les sœurs du centre ne parlent que le français. Ça cause bien des incompréhensions. D'autant plus qu'on est au lendemain de la guerre où il y a eu des difficultés entre Allemands et Français. Il reste quelque chose dans le fond de la psychologie. Eugénie nous disait, une de ses compagnes des tout débuts, Eugénie Caps, avait un caractère énergique, doué d'une intelligence vive et de beaucoup de savoir-vivre, mais elle était fortement marquée par son père, chef de gare, comme je vous ai dit au début, imposant ses volontés et facilement irritable. Du côté de sa mère, elle tenait une grande bonté de cœur et une grande sensibilité. Elle menait les gens et les choses énergiquement. Elle se croyait obligée, parfois, d'éprouver les vocations, comme on dit. Et plus d'une fois, il y avait des heurts et des larmes. Alors, il y a d'autres difficultés qui viennent de son directeur, qui avait une autre idée de l'œuvre, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et Eugénie doit faire un choix douloureux entre les pères du Saint-Esprit puis les œuvres de cette fameuse abbé Aich, A-E-I-C-H. Après le départ de l'abbé Aich, une de ses compagnes, du tout début, lui manifeste son opposition, la critiquant jusqu'au jour où elle prend finalement la fuite. Les difficultés, les problèmes, les disputes. Le 24 janvier 1922, une maison peut être achetée à Jouy aux Arches, mais l'installation demande pour les sœurs plusieurs semaines. Un dur travail, puis la visite physique agit sur le moral d'Eugénie, puis les nouvelles difficultés qu'elle voit clairement se dessiner la mettent dans un certain état de désarroi. Comme je vous ai dit au début de l'émission, c'est une femme qui n'a pas tous les moyens nécessaires peut-être pour fonder, mais elle fonde quand même et elle se soumet à la volonté de Dieu malgré ses faiblesses et ses difficultés personnelles. Eugénie Caps demeure donc fidèle. Elle s'en remet au Seigneur et elle écrit dans son cahier « mon Dieu, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous permettrez, maintenant que le nid est préparé, que le plus difficile est passé, eh bien broyez votre petit instrument que je suis. Mettez-le dans un coin, tout ce que vous voudrez, pourvu que vous soyez glorifiés, vous, et que les âmes de mes chers noirs d'Afrique soient sauvées, le reste ne compte pas. Seigneur, donnez-moi la force d'aller jusqu'au bout et de vous servir avec fidélité. » Et ces quelques mots écrits de la main d'Eugénie Caps expriment bien ce qu'elle a été toute sa vie. Elle est un instrument entre les mains de Dieu. L'important pour elle, c'est pas ses talents, c'est pas ses incapacités, c'est pas ses traits de caractère, ni son dévouement. Tout ça, ça l'importe peu. L'important pour elle, c'est que l'œuvre se réalise comme Dieu l'a voulu, que ce soit par elle ou par d'autres, si elle ne fait pas l'affaire. Et très vite, elle est mise dans l'ombre. Le développement de la congrégation se fait apparemment sans elle. Et pourtant, dans la fidélité à l'Esprit qui l'a guidée, est-ce qu'elle n'a pas porté en elle le souci constant de cette œuvre missionnaire dont elle a été l'inspiratrice du tout début? Et Eugénie Caps a commencé, d'autres ont continué. Le 12 mars 1922, c'est là qu'a lieu l'ouverture officielle de la maison de Jouy aux Arches. Le 26 mars, donc quelques jours plus tard, arrive la nouvelle maîtresse des novices, qui s'appelle Mère Adeline, des sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean de Bassel. Eugénie lui remet sa charge. Puis, elle se met tout simplement dans le rang. Alors commence le postulat. Et la première prise d'habit a lieu le 12 octobre 1922, toujours la même année. Il y a 22 novices, 13 postulantes, calculées, c'est pas 35 jeunes femmes, hein, qui remplissent la maison. Ça va vite. Hein. Et le 16 avril de l'année suivante, 1923, c'est d'habit Tizy-Saint-Pierre dans l'Oise qui est installé le noviciat, et c'est là qu'ont lieu les premières professions, le 5 octobre 1924. Tout se précipite. Elles étaient au nombre de 25, c'est incroyable. Et elles ont fait en même temps leur consécration à l'apostolat. Et au cours des mois suivants, 4 d'entre elles, déjà, partent à la Martinique. Et 5 partent au Cameroun, en Afrique. À chacune, Dieu donne les talents nécessaires pour mener à bien son œuvre. Et c'est sœur Michaël qui va organiser l'Institut. Elle est élue première supérieure générale au chapitre de juillet 1927, et ce n'est pas Eugénie Capps qui est nommée supérieure générale. Et sœur Michaël va y rester jusqu'au chapitre de 1945, longtemps après la mort d'Eugénie Capps. Alors, lorsque Eugénie Capps meurt, le 16 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1931, une tuberculose et d'opérations probablement mal faites. Elle meurt donc 10 ans seulement après la naissance de la communauté. Les spiritaines sont déjà au nombre de 200 répartis en plusieurs pays. Imaginez, en 10 ans, 200. Le 5 octobre 1924, comme je vous ai dit, 25 novices ont fait leur consécration, se sont consacrés à l'apostolat, et le 11 novembre de cette même année, 4 d'entre elles partent pour la Martinique, et le 5 décembre, 8 partent pour le Cameroun. Et par la suite, je vous donne cette liste extraordinaire, ne serait-ce que pour vous éblouir, de ce qui se passait il y a quelques années à peine dans notre très sainte Église. Par la suite, des maisons s'ouvrent en d'autres pays. Voici la liste. C'est émouvant. En 1929, le Centrafrique. 1938, le Congo. 1940, la Guadeloupe. 1941, le Portugal. Et 1945, la Belgique. Et au Cap-Vert, l'année suivante. Puis en 1947, la Hollande. Et c'est en 1953 qu'elles sont arrivées ici, au Québec, au Canada. En 1954, en Angola, 57 au Sénégal, 60 en Suisse. En 1975, le Nigeria, l'année suivante au Brésil, et en 1978 en Haïti. En 1982 en Espagne, puis en Allemagne, puis en Guinée-Bissau, etc. C'est incroyable. Les spiritaines sont aujourd'hui plus de 400 de 13 nationalités différentes. La supérieure générale, aujourd'hui, est une Québécoise. Je vais m'adresser aux jeunes qui rêvent peut-être de se faire missionnaire. Savez-vous comment ça a commencé, les Québécois, chez les spiritaines? C'est en septembre 1932, un an après la mort d'Eugénie Capps, qu'une jeune du village d'Amos, en Abitibi, Rita Simard, prend le bateau pour la France. Ce n'est qu'en 53 qu'elles vont venir ici, au Québec. Elle part pour la France. Son but est de devenir spiritaine. Les revues missionnaires, sans doute qu'elle a lues. Elle part donc pour un temps de formation avant de s'envoler pour Madagascar, où les sœurs ont déjà plusieurs activités. Pour mois d'août 1935, une autre jeune, Marie-Anna Doyon, part de Compton, près de Sherbrooke, pour vivre la formation spiritaine en France. Elle se rend ensuite à Bangui, en Oubangui-Chari, qui est devenue aujourd'hui la République centrafricaine, pour y ouvrir une école pour les petites filles, tout simplement. 3 ans plus tard, en 1938, c'est Yvonne Hood qui quitte Sherbrooke à son tour. Avec ses 3 années de formation, après ses 3 années de formation, sœur Yvonne est envoyée à Bangui, elle aussi. Au mois de février 1953, la sœur Rita Simard, vient en congé, son père est très fatigué, alors le Conseil général de France lui demande de s'informer et de voir si un diocèse accepterait des spiritaines ici. Et après un temps de recherche et de démarches diverses, aidée par les sœurs grises de Montréal, bien sœur Rita découvre la possibilité d'ouvrir une maison à Sainte-Thérèse de Blainville, et c'est là que commence la première communauté spiritaine au Canada pour rassembler des vocations. Et au mois d'août 1953, 5 spiritaines arrivent par bateau. Sœur Marie-Anna Doyon et 4 sœurs françaises. Elles travailleront à l'école du Charme avec 5 autres institutrices et sœur Rita comme directrice de l'école. Et plus tard, en 1953, Laurence Audet se présente à la communauté, désirant être spiritaine. Elle part le 15 septembre 1954 pour son temps de formation en France. Elle est aujourd'hui, elle, à la maison de la rue Sherbrooke, sœur Laurence Audet. Par la suite, d'autres jeunes se présentent avec le désir de devenir spiritaines et pour répondre à ces nouveaux besoins. Mais les spiritaines ouvrent un noviciat à Sainte-Scolastique en juillet 56. Elles vont y rester jusqu'en 69. En 69, à Sainte-Thérèse de Blainville, la commission scolaire a besoin des locaux où résident les sœurs. Alors le conseil général décide que les sœurs vont s'en aller en Afrique et ne prendront pas un logement à Sainte-Thérèse. Mais entre-temps, en 1964, la nouvelle communauté spiritaine qui s'était ouverte à Montréal, rue Sherbrooke, où est aujourd'hui Sœur Laurence Audette, au service des jeunes sœurs étudiantes. Puis en janvier 69, une autre, rue de la Visitation, qui permet aux sœurs de s'intégrer dans la paroisse. En 70, c'est l'ouverture de la communauté, donc, du 2270 boulevard Saint-Joseph à Montréal. Je vous donne le numéro de téléphone si vous voulez devenir spiritaine, là. 523-2031. 523-2031. Vous parlerez à Sœur Odette, probablement. 2270 boulevard Saint-Joseph. C'est la seule qui reste vivante aujourd'hui, des maisons, là. 6 sœurs y sont présentes, impliquées surtout dans le bénévolat, soit au service des personnes âgées, malades, personnes démunies, de personnes réfugiées, immigrantes, des jeunes, des prisonniers. Elles ont opté pour s'engager dans toutes sortes de services et d'organismes, comme font tellement de religieuses à Montréal. Et elles collaborent. Elles ont aussi une maison à Inafou, au village de Saint-Esprit-de-Montcalm, ouverte en 1979, en vue d'une collaboration avec les Spiritains. Mais elles n'y logent pas. Leur but premier, c'est la mission, en première évangélisation, spécialement en Afrique. Et toutes les sœurs ont eu la joie de vivre des séjours plus ou moins longs dans l'un ou l'autre de ces pays d'Afrique. Et plusieurs des sœurs canadiennes sont en Afrique. Il y avait au Nigeria sœur André Boutin, qui a été élue supérieure générale il y a 2 ans. Elle était responsable d'un groupe communautaire. Il y a sœur Monique Desjardins, sœur Eola Soucy, sœur Rita Boutin, une autre Boutin, sœur Denise Parizeau, puis encore une troisième Boutin, sœur Fernande Boutin, elle qui est en République centrafricaine. C'est assez étonnant tout ça. Ça me rapproche des pensées du père Liberman, qui disait « Les saints sont envoyés par le Seigneur pour faire des saints. » Et les savants ne peuvent faire que des savants comme eux. Mais de l'humour. Le père Liberman écrivait à un frère, que l'Esprit Saint remplisse votre âme pour y être votre consolation, votre joie, votre force, votre lumière et votre amour. Soyez fidèles à ce que le divin Esprit veut faire en vous. Suivez-le très doucement et dans une grande humiliation intérieure devant lui. Oh, tenez-vous toujours en repos. Oh, visez à amortir, à adoucir et à calmer toutes vos aigreurs, tous vos mouvements d'inquiétude, tous les découragements et tous les troubles qui tendent à s'élever dans votre âme. Tâchez de vivre dans une certaine liberté d'esprit, sans contrainte et sans effort. Lorsque vous vous sentez assailli par le désir de vous répandre dans les créatures, ne vous en troublez pas. Savez-vous pas ce que vous êtes, mais que vous craignez? L'Esprit de Jésus qui est en vous ne vous tient-il pas entre ses mains? Oh oui, bien sûrement, car si cela n'était, vous seriez bien loin hors de lui, il y a longtemps. Ne vous étonnez donc pas que j'insiste tant là-dessus, car je pense, et je suis bien persuadé, que pour être parfait, il faut que nous soyons absolument vidés de tout ce qui n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit frappe à tout instant à la porte de notre cœur. Nous désirons ardemment qu'il entre, et par ce désir, nous lui ouvrons la porte. Mais comment peut-il y entrer s'il n'y trouve pas de place, s'il trouve ce cœur qui doit tant lui appartenir rempli d'affections ennemies? Il est donc obligé de rester dehors. Il a la bonté inconcevable d'attendre, jusqu'à ce qu'il trouve une petite place. Et à mesure que nous nous débarrassons de ces misérables affections, alors plus le Saint-Esprit est entré dans notre cœur, bien plus nous devenons forts pour chasser peu à peu les ennemis de Dieu qui s'en sont emparés. C'est pour cela qu'il est essentiel que nous aidions ce divin Esprit à les mettre dehors, car sans notre ferme volonté, et ne les forcera pas seul. Il faut donc le prier ardemment et employer tout ce qu'il nous donne de force pour lui aider à accomplir cette œuvre. C'était un texte du vénérable François Liberman, ce juif converti qui a fondé les Spiritains. Et c'était aujourd'hui une émission consacrée à Eugénie Capps, fondatrice des Spiritaines, missionnaire chez les Noirs.